Espacement doré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve, on les parlera, les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes, les mortes, les mortes, les mortes, connivence, révolution, sa lardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines mamelées, les phénix, les phénix, les phénix célibataires et dorés libres, on entend leurs ailes déployées. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements. Elles affirment triomphant que tout geste est renversement.
Osé, Baptiste, Sarah, Nice, Yol, Corée, Sabine, Daniel, Galzin, Edna, Joseph, Flore, Zita, Savé, Cornélie, Dropadi, Juliette, Etmel, Chloé, Desdemone, Raphaël, Iris, Vera, Arsinoe, Elise, Brenda, Orphis, Erodia, Bérénice, Sigrid, Andover, Amy, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmond, Jeanne, Hermine, Kika, Aurélie, Évangéline, Simone, Maximilienne, Calypso, Judith, Anne, Isotte, Christa, Robert, Blasta, Cléonis, René, Maria, Béatrice,
Monique la police, Vitic part en guerre.
Et salut, du coup on est Jacques et Minouche pour la deuxième émission sur le livre de Monique Wittig qui s'appelle Les Guerrières. Du coup juste pour vous remettre dedans, mais il vaut mieux écouter celle d'avant, c'est une épopée un peu épique qui raconte la guerre d'un groupe de femmes contre tout ce qui les submerge habituellement. Il a été écrit en 69 par Wittig. Et aujourd'hui, c'est le cercle, la vulve, l'anneau solaire et les frondes qui vont nous intéresser. On va parler du cycle, ce qu'elle évoque énormément dans son livre. Et donc, on va commencer par vous lire quelques passages qui évoquent ça. Et ensuite, on reparlera un peu de ce que ça peut nous évoquer à nous.
Qu'est-ce que le début ? Disent-elles. Elles disent qu'au début, elles sont pressées les unes contre les autres. Elles rassemblent à des moutons noirs. Elles ouvrent la bouche pour bêler ou pour dire quelque chose, mais pas un son ne sort. Leurs cheveux, leurs poils frisés sont appliqués contre les fronts. Elles se déplacent sur la surface lisse, brillante. Leurs mouvements sont des translations, des glissements. Elles sont étourdies par les reflets au-devant desquels elles vont. Leurs membres, à nul point, ne peuvent s'accrocher. À la verticale, à l'horizontale, c'est la même glace ni froide ni chaude, c'est la même brillance qui nulle part ne les retient. Elles avancent, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Elles progressent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Elles se meuvent lancées les unes contre les autres. Les mouvements qu'elles amorcent avec leurs membres inférieurs ou avec leurs membres supérieurs multiplient les déplacements. S'il y a eu un déplacement initial, c'est un fait qui contredirait leur fonctionnement immuable. Ce serait une variation fondamentale qui contredirait le système d'ensemble. Il instaurerait le désordre. Elles vont, ou elles viennent, enfermées dans quelque chose d'étincelant et de noir. Le silence est total. Si parfois elles tentent de s'arrêter pour écouter quelque chose, le bruit d'un train, la sirène d'un bateau, la musique de XX, leur mouvement d'arrêt les propulse de part et d'autre d'elles-mêmes, les fait osciller, leur donne un départ nouveau. Elles sont prisonnières du miroir. Il arrive qu'elles parlent ensemble de la dernière fable qui a été rapportée. Par exemple, Diane et Belle racontent à Aimé Dionis la fable de Quéfeille, où il est question d'une jeune fille qui poursuit le soleil. Elle est sans cesse sur le point de l'atteindre. Pour lui échapper, le soleil se plonge dans la mer. Quéfeille alors se met à nager derrière lui. Elle traverse ainsi tout l'océan. Elle s'approche de lui au moment où il sort des eaux, pour lui échapper une fois encore. En hâte, Quéfeille saute dans le soleil et s'y introduit. Dans son mouvement, elle le fait basculer. Quelques étoiles tombent de ce fait. Cependant, Quéfeille est parvenue à s'asseoir dans le soleil. À présent, elle décide de sa marche. Elle peut lui faire parcourir son orbite lentement ou plus vite à son gré. C'est ce qui fait que pour avoir le beau temps, quand elles partent à la pêche, les petites filles s'adressent à Quéfeille, maîtresse du soleil, pour qu'elle s'arrête un peu au-dessus de la mer.
Il y a quelque part une sirène.
Son corps vert est couvert d'écailles.
Son visage est nu.
les dessous de ses bras sont couleur d'incarnat. Quelquefois, elle se met à chanter. Elles disent que de son chant, on n'entend qu'un O continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elle, comme pour ce qui rappelle le O, le zéro ou le cercle, l'anneau vulvaire. Au bord du lac, il y a un écho. On s'y tient avec un livre ouvert dont les passages préférés sont redits de l'autre côté par la voix qui s'éloigne et répète. Au double écho, Lucie Mort crie la phrase de Fénaret. « Je dis ce qui est, est. Je dis ce qui n'est pas, est également. » Quand elle reprend plusieurs fois la phrase, la voix dédoublée puis triple superpose sans cesse ce qui est et ce qui n'est pas. Les ombres couchées sur le lac bougent en se mettant à trembler à cause des vibrations de la voix.
Elles disent que la déesse Eristikos a une tête d'épingle et des yeux jaunes. Elles disent que ce qu'aime la déesse Eristikos, ce sont les parfums. Pour l'honorer, on porte à même la peau des vêtements faits d'herbe odorante. On les enflamme la nuit venue en mettant le feu à chaque brin. Elles sont disposées en cercle. Leurs vêtements dans l'obscurité sont incandescents. Elles se tiennent immobiles, les bras étendus de part et d'autre du corps. L'herbe, en brûlant, grésille et produit une odeur. Des fumées sont en train de s'éparpiller. Quand la chaleur atteint la peau, elle arrache brutalement leurs tuniques et les jette en tas. C'est ce qui fait qu'elles doivent sans cesse en fabriquer de nouvelles. Elle joue à un jeu. Il se pratique sur une esplanade de grande dimension. Le sol est partagé en bandes suivant les couleurs du spectre. Il y a 150 cerceaux violets, 150 cerceaux indigo, 150 cerceaux bleus, 150 cerceaux verts, 150 cerceaux jaunes, 150 cerceaux oranges, 150 cerceaux rouges. Les équipes sont composées de 75 personnes, chacune, placées de part et d'autre de la ligne médiane de l'esplanade. Chaque équipe dispose de bandes égales de violet, d'indigo, de bleu, de vert, de jaune, d'orange, de rouge. Une machine placée au centre de l'esplanade éjecte les cerceaux les uns après les autres, à un rythme rapide. Ils s'élèvent à la verticale au-dessus de la tête des joueuses. Ils tournent sur eux-mêmes. Ils décrivent en même temps un vaste cercle qui va en s'élargissant, suivant le mouvement que la machine leur a imprimé. Le tracé de leur déplacement serait une spirale immense. Les joueuses doivent saisir des cerceaux sans quitter les bandes de couleurs qui leur ont été assignées. Il y a très vite un tumulte merveilleux de corps qui se heurtent en tentant de s'emparer du même cerceau ou de se retirer de la mêlée.
Elle regarde des vieilles images, des photographies. Quelqu'une les explique. Par exemple, la série de la fabrique de textiles. C'est un jour de grève.
Les ouvrières font un piqué de grève dans le champ où les bâtiments sont implantés. Elles tournent en rond. L'une derrière l'autre en chantant, en frappant des pieds contre le sol, en battant des mains. Elles ont des blouses noires et des écharpes de laine. Toutes les fenêtres, toutes les portes de la fabrique sont fermées. L'une ou l'autre d'entre elles porte à bout de bras une pancarte où les mots d'ordre sont inscrits, peints en rouge sur le papier blanc. Sous leurs pieds, dans le champ, il y a un cercle de terre battue.
Les déambulations sont cycliques et circulaires, quels que soient les itinéraires, quels que soient les points de départ qu'elles choisissent. Elles aboutissent à la même place. Les parcours sont parallèles, équidistants, de plus en plus étroits à mesure qu'ils s'approchent du centre de la figure. Si elles suivent le tracé de l'intérieur vers l'extérieur, elles doivent parcourir le plus grand des cercles avant de trouver le passage à franchir qui les ramène au centre. Le système est clos. Aucun rayon partant de centre ne permet de l'élargir ou de le faire éclater. Il est en même temps illimité. La juxtaposition des cercles qui vont s'élargissant figure toutes les révolutions possibles. C'est virtuellement la sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part.
Il y a là Elsa Brauer, Julie Brunel, Odile Rock, Evelyne Sabir. Elles sont debout devant la grande assemblée des femmes. Elsa Brauer frappe les cymbales l'une contre l'autre
quand elle s'arrête de parler, tandis que Julie Brunel, Odile Rock et Evelyne Sabir
prendre pour l'accompagner de longs romans sur leur tombeau. Elsa Brauer dit quelque chose comme « Il y a eu un temps où tu n'as pas été esclave, souviens-toi. Tu t'en vas seule, pleine de rire, tu te
baignes le ventre nu. Tu dis que tu as perdu la mémoire, souviens-toi. Les roses sauvages fleurissent dans les bois. Ta main se déchire au buisson pour cueillir les mûres et les framboises dont tu te rafraîchis. Tu cours pour attraper des jeunes lièvres que tu écorches aux pierres des rochers pour les dépecer et les manger tout chauds, sanglants. Tu sais comment ne pas rencontrer un ours sur les pistes. Tu connais la peur de l'hiver quand tu entends les loups se réunir. Mais tu peux rester assise pendant des heures sur le sommet des arbres pour attendre le matin. Tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps. Tu dis qu'il n'existe pas. Mais souviens-toi. Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. Elles disent, malheureuses, ils t'ont chassée du monde des signes. Et cependant, ils t'ont donné des noms. Ils t'ont appelée esclave, toi, malheureuse esclave. Comme des maîtres, ils ont exercé leur droit de maître. Ils écrivent de ce droit de donner des noms qu'il va si loin que l'on peut considérer l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de ceux qui dominent. Ainsi, ils disent qu'ils ont dit « ceci est telle chose ou telle chose ». Ils ont attaché à un objet et à un fait tel vocable, et par là, ils se le sont pour ainsi dire approprié. Elles disent « ce faisant, ils ont gueulé, hurlé de toutes leurs forces pour te réduire au silence. Elles disent, le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. Elles disent, le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. Elles disent, le langage que tu parles est fait de signes, qui à proprement parler désignent ce qu'ils se sont appropriés. Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main, ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples, cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler avec leurs mots de propriétaire et de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours, dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre.
La disposition sériale se poursuit en même temps que le cycle s'achève. Mais c'est trop dire ou trop peu. Elles disent que, pour faire un cycle, il faut une série d'actions éclatantes ou d'événements extraordinaires et funestes. Charlotte Bernard dit qu'elles ne sont pas concernées. Emmanuelle Chartres dit qu'elle n'est plus de mise de s'émerveiller devant cette sorte de cycle. Marie-Serge dit qu'aussi bien le cycle peut se référer à des mythologies et ne pas faire mention d'actes qui aient quelque semblant de réalité. Flamini Pougent dit que pour elle, pour qu'elles y soient tout à fait impliquées, il faut les inventer. Elle rit alors et tombe à la renverse, à force de rire. Toutes sont gagnées. Il monte un bruit pareil au roulement du tambour sous une voûte. Les briques du plafond tombent une à une, découvrant par les ouvertures les lambris dorés des salles hautes. Les pierres des mosaïques sautent, les pattes de verre dégringolent, il y a des éclats de bleu, de rouge, d'orange, de mauve. Le riz ne décroît pas. Elle ramasse les briques et s'en servant comme des projectiles, elle bombarde les statues restées debout au milieu du désordre. Elle s'applique à faire descendre les pierres restantes. C'est un choc terrible de la pierre contre la pierre. Elle évacue celles qui parmi elles sont touchées. La destruction systématique du bâtiment est menée à bien par elle au milieu d'un vacarme de cris, d'appels, tandis que le rire se prolonge, s'étale, devient total. Il ne prend fin que quand l'édifice, il ne reste plus que des pierres sur des pierres. Elles se couchent alors et s'endorment.
Les ophidiennes, les odonates, les
oogones, les odoacres, les olynthiennes, les omphales, celles d'Ormur, celles d'Orphise, les oriennes, passer à l'attaque, rassembler. Les convois qui les suivent portent les armes, la nourriture, les vêtements. Ils se déplacent la nuit, rejoignant les armées au point du jour, quand elles se retirent après avoir livré bataille. Leur arme la plus redoutable est l'ospa. Elles la tiennent dressée au-dessus de leur tête et la font tourner à toute vitesse avec des moulinets de leur bras droit, comme avec un lasso qu'on projette devant soi, ou comme la lanière de cuir munie de bolos que l'on lance autour des jambes des chevaux sauvages pour les entraver. L'ospa est invisible tant qu'elle n'entre pas en action, quand elle est maniée au cours du combat. Elle se matérialise en un cercle vert qui crépite en exhalant des odeurs. Elle crée ainsi, avec l'ospa, en la faisant bouger à toute vitesse dans une direction donnée, un champ mortel. Aucun rayon, aucun coup de feu, aucune fulguration ne sont vus qui partiraient de l'ospa. La coalition des zéros est formée par des combattantes acharnées, pleines de courage, audacieuses, âpres, qui ne reculent pas.